Audiolib présente. Lyonnaise, tome 1. Le jardin de Soulbrunn. De Jack Vance, traduit de l'anglais par Arlette Rosenblum. Lu par Marvin Schlick. À Norma, épouse et collaboratrice. Note préliminaire. Les Isles anciennes et leur population. Exposé sommaire qui, sans être tout à fait rebutant, peut être négligé par le lecteur peu amateur de documentation. Les Isles anciennes, aujourd'hui englouties sous les eaux de l'Atlantique, se trouvaient autrefois au large de la vieille Gaule, dont elles étaient séparées par le golfe Cantabrique, appelé maintenant baie de Biscaye. Les chroniqueurs chrétiens n'ont pas grand-chose à dire sur les Isles anciennes. Gildas et Nennius mentionnent l'un et l'autre Hybras. Par contre, Bede n'en parle pas. Geoffrey de Monmouth fait allusion aux Lyonnaises, ainsi qu'à Avalon, et peut-être à d'autres lieux ou événements plus malaisés à identifier avec certitude. Chrétien de Troyes s'extasie sur Is et ses plaisirs. Et Is sert aussi fréquemment de cadre au vieux conte populaire armoricain. Les références irlandaises sont nombreuses, mais déroutantes et contradictoires. Saint Brésabius, de Cardiff, propose une liste assez fantaisiste des rois de Lyonnaise. Saint Colomban tonne contre les hérétiques, sorcières, idolâtres et druides de l'île, qu'il appelle Hybrasil, le terme médiéval pour Hybras. À part cela, les archives sont muettes. Les Grecs et les Phéniciens ont commercé avec les Isles anciennes. Les Romains sont venus visiter Hybras et beaucoup s'y sont installés, laissant derrière eux des aqueducs, des routes, des villas et des temples. À l'époque de la décadence de l'Empire, des dignitaires chrétiens ont débarqué en grand apparat à Avalon. Ils ont créé des évêchés, nommé des titulaires appropriés et dépensé du bon or romain pour construire leur basilique, dont aucune n'a prospéré. Les évêques ont bataillé avec vaillance contre les dieux d'autrefois, les afflins et aussi les magiciens, mais peu d'entre eux ont osé pénétrer dans la forêt de Tantreval. Goupillon, encensoir et anathème se sont révélés inopérants contre tels que Dangvin le géant, Taudry grand gosier, l'effet de Pithpenichy. Des douzaines de missionnaires, exaltés par la foi, ont payé leurs ailes un prix terrible. Saint Elric s'était rendu pieds nus au roc du baiser volé, avec l'intention de subjuguer l'ogre magre et de l'amener à la foi. Selon la relation qu'en transmirent plus tard des conteurs, Saint Elric était arrivé à midi et Magre accepta courtoisement d'entendre ce qu'il avait à dire. Elric prononça un sermon vigoureux, tandis que Magre allumait du feu sous sa rôtissoire. Elric exposa sa doctrine, cita l'Écriture et chanta les gloires de la foi. Quand il eut fini et prononcé son dernier Alléluia, Magre lui donna un cruchon de bière légère pour se rafraîchir la gorge. Tout en aiguisant son couteau, il complimenta Elric sur la ferveur de son éloquence. Puis il trancha la tête d'Elric, découpa, vida, embrocha, fit rôtir et dévora la savoureuse nourriture consacrée, accompagnée d'une garniture de poireaux et de choux. Saint Uldin avait voulu baptiser un troll dans les eaux d'un lac montagnard, le Tarn de la Meira Noire. Elle se montra infatigable. Il la viola 4 fois pendant qu'elle s'efforçait de le baptiser, tant et si bien qu'à la fin elle perdit tout espoir d'y réussir. Le temps venu, elle donna naissance à 4 lutins. Le premier de ceux-ci, Ignaldus, devint le père du terrifiant chevalier Sir Sacrontin, qui ne pouvait pas s'endormir le soir sans avoir tué un chrétien. Les autres enfants de Saint Uldin étaient Drath, Aleia et Basile. En Godélie, les druides ne cessèrent jamais de célébrer le culte de Loug, le soleil, de Matron, la lune, d'Adonis, le beau, de Kernoun, le cerf, de Mokus, le sanglier, de Kai, le brun, de Shea, le gracieux, et d'innombrables demi-dieux du pays.